Chapitre 25. La délivrance. Malgré les précautions qui furent prises pour tenir l'arrestation de Sébastien secrète, la nouvelle fut bientôt répandue dans la ville par tous ceux qui avaient des rapports avec la cour. Tout Rome sut avant la fin du jour que Sébastien s'était avoué chrétien et qu'en punition de ce crime, le lendemain, dès l'aurore, il serait percé de flèches. Cette double nouvelle fit une vive impression sur tous, mais Fabiola s'en montra particulièrement frappée. « Quoi » pensa-t-elle, « Sébastien est chrétien ? Lui, le plus noble, le plus sage, le plus vertueux des patriciens de Rome, il serait membre de cette religion, à la fois vile et stupide ? C'est impossible. Et pourtant, le fait est certain. Aurais-je donc été trompé par lui ? N'est-il pas tel qu'il me semble ? Est-ce un hypocrite qui cache ses vices sous l'apparence d'une vertu affectée ? Cette première hypothèse est aussi impossible que la seconde. » Fabiola n'avait-elle pas des preuves certaines de la vertu du jeune tribun ? Il savait qu'en demandant la fortune et la main de la riche patricienne, il aurait tout obtenu, et cependant, il avait agi envers elle avec une délicatesse et une générosité sans exemple. Oh, elle en était bien sûre, le noble tribun était tel qu'il paraissait. Sa vertu, semblable au lingot d'or, ne brillait pas seulement aux yeux, mais étincelait davantage à mesure qu'on approchait du cœur. Mais comment expliquer ce phénomène ? Un chrétien, renfermant en lui-même tout ce qu'il y a de bon, de vertueux et d'aimable ? La vraie solution ne se présentait pas à l'esprit de Fabiola. Si Sébastien lui paraissait orné de toutes les vertus, c'est parce qu'il était chrétien. Le problème se présentait à elle sous une autre forme. Comment pouvait-il posséder toutes ces qualités en étant chrétien ? L'esprit de Fabiola tournait et retournait en vain cette question. Puis elle en vint à la conclusion suivante. Peut-être, dit-elle, que le bon Chromatius avait raison et que le christianisme n'est pas tel que je me le figure. J'aurais dû l'étudier davantage. Je suis sûre que Sébastien ne s'est jamais rendu coupable des crimes qu'on impute aux chrétiens. Et pourtant, chacun les accuse de ces abominations. Mais n'y a-t-il pas dans le christianisme, comme dans l'épicurisme que j'ai adopté, deux formes de religion, l'une dont les adeptes grossiers et matériels se plongent dans la fange du sensualisme, tandis que les autres, plus raffinés, s'élèvent au scepticisme et règnent dans le domaine de la réflexion? Sébastien appartient sans doute à la classe la plus haute, il méprise et il hait les superstitions et les crimes du commun des chrétiens. Cette hypothèse parut plus vraisemblable à Fabiola, mais son esprit acceptait difficilement que le noble soldat pût, malgré tout, appartenir à cette race détestée. Et pourtant, il était prêt à mourir pour leur foi commune. Elle ne savait rien de la mort de Zoé et des autres chrétiens, arrivant ce jour-là même de Campanie, où elle était allée arranger les affaires de son père. « Quel malheur, pensa-t-elle, de n'avoir pas questionné davantage Sébastien à ce sujet !» Mais il était trop tard à présent. Le lendemain matin, le noble tribun ne serait plus de ce monde. Cette pensée transperça son cœur comme une flèche acérée. Il lui semblait qu'elle allait faire une perte personnelle, et que le sort de Sébastien atteignait un être qui lui était lié étroitement par un nœud à la fois secret et étroit. Ses pensées devenaient de plus en plus sombres. Elles remplissaient son âme et l'obscurité du jour qui baissait avait un rapport mystérieux avec le trouble de son cœur. Tout à coup, elle fut distraite par l'entrée d'une esclave qui apportait de la lumière. C'était Afra, l'esclave noire. Elle venait préparer le repas du soir que sa maîtresse désirait prendre seule. Pendant qu'elle faisait ses préparatifs, elle dit à Fabiola « Savez-vous les nouvelles, madame ?»« Quelles nouvelles ? » ?»« Celles-ci seulement. Sébastien sera percé de flèches demain matin. »« Quel malheur ! C'était un si beau jeune homme !»« Taisez-vous, Afra, à moins que vous n'ayez quelques renseignements de plus à me donner sur ce sujet. » « Oh, naturellement, ma noble maîtresse, et mes informations sont vraiment extraordinaires. Savez-vous que le tribun est un misérable chrétien ? Taisez-vous, je vous en prie, et ne vous mêlez pas de bavarder sur ce que vous ne pouvez pas comprendre. Je me tairai si vous le désirez, Mais je suppose que son sort vous est tout à fait indifférent, madame, comme il m'est indifférent à moi-même. Ce n'est pas le premier officier que mes compatriotes ont tué. Ils en ont tué un grand nombre et sauvé quelques-uns. Mais naturellement, c'était par hasard. » Il y avait dans les mots et dans l'inflexion de la voix d'Afra une signification qui n'échappa point à l'œil pénétrant et à l'oreille subtile de Fabiola. Elle leva les yeux alors et, pour la première fois, regarda fixement la face basanée de l'esclave africaine. Elle n'y put lire la trace d'une émotion. Elle plaçait un flacon de vin sur la table comme si elle n'avait rien dit. À la fin, la jeune fille rompit le silence. « Afra, que voulez-vous dire ?»« Oh, rien, rien du tout. Qu'est-ce qu'une pauvre esclave peut savoir, et encore moins, que peut-elle faire ?»« Allons, allons, vos paroles de tout à l'heure avaient un sens que je veux pénétrer. » L'esclave fit le tour de la table. Elle s'approcha de la couche sur laquelle Fabiola demeurait étendue, regarda derrière elle, puis murmura à son oreille « Désirez-vous que la vie de Sébastien soit préservée ?» Fabiola tressaillit légèrement en répliquant « Certainement !» L'esclave mit son doigt sur sa lèvre pour réclamer le silence, puis elle dit « Cela coûtera cher. Dites votre prix. 100 sesterces et ma liberté. J'accepte vos conditions, mais quelle garantie m'offrirez-vous ? Vous me les donnerez seulement si, 24 heures après l'exécution, le tribun est encore en vie. C'est convenu. Et quelle garantie demandez-vous ? Votre parole, madame. Allez, Afra, ne perdez pas un moment. Il n'y a rien de pressé, répondit tranquillement l'esclave en continuant paisiblement les préparatifs du souper. Puis elle se dirigea vers le palais, entra au quartier Maure et alla directement vers le commandant. « Que veux-tu à cette heure, Jubala ? » dit-il. « Nous n'avons pas de fête cette nuit. »« Je le sais, Ifax, mais j'ai une affaire importante à te communiquer. »« De quoi s'agit-il ? » ?»« C'est une affaire qui te concerne, ainsi que ton prisonnier. »« Regarde-le, il est là-bas, » dit le barbare, en montant à l'extrémité de la cour, opposée à la porte où il se trouvait. « On ne penserait pas qu'il va être tué demain. Vois comme il dort paisiblement. Il ne dormirait pas mieux le jour de ses noces. »« Comme toi et moi, Ifax, nous nous marierons après-demain. »« Allons, pas si vite. Il y a d'abord certaines conditions à remplir. »« Bien, quelles sont ces conditions ?»« D'abord ton affranchissement. Je ne puis épouser une esclave. »« Ma liberté est assurée. » Ensuite, il me faut une dot, une bonne dot. Je n'ai jamais eu plus besoin d'argent qu'en ce moment. Tu auras la dot. Combien te faut-il ? Je ne veux pas moins de 300 livres. J'en apporterai 600. Délicieux ! Où as-tu gagné toute cette somme ? Qui as-tu volé ? Qui as-tu empoisonné, mon adorable prêtresse ? Pourquoi donc attendre jusqu'à après-demain pour les noces ? « Demain, si tu veux, cette nuit, si cela te plaît. »« Calme-toi, Ifax. L'argent est acquis sûrement, mais à certaines conditions. Je t'ai dit que j'avais à te parler aussi du prisonnier. »« Très bien. Qu'a-t-il à faire avec nos futures noces ?»« Il y est mêlé. »« Comment cela ?»« Il ne doit pas mourir. » Le capitaine la regarda avec un mélange de fureur et de stupidité. Il fut sur le point de la battre, mais elle resta droite et immobile devant lui et sembla le maîtriser par la fascination de son regard ardent, comme les serpents de son pays fascinent les vautours. « Es-tu folle ? » s'écria-t-il à la fin. « Tu aurais mieux fait de demander d'une fois ma tête. Si tu avais vu la figure de l'empereur en me donnant ses ordres, tu aurais compris qu'il n'y a pas à plaisanter avec lui. « Bah, soldat ! Il va sans dire que le prisonnier doit paraître mort et porté comme tel sur le rapport. Et s'il en revient ? Ses camarades les chrétiens le prendront et le cacheront à tous les yeux. Tu as dit qu'il devait vivre 24 heures. Je préférerais que ce fût seulement 12 heures. C'est vrai, mais je sais que tu calcules juste. Qu'il meure dans la 25e heure, peu m'importe. Jubala, c'est impossible. Le tribun est un personnage trop important. Alors notre affaire est manquée, car on ne donnait l'argent qu'à cette condition. 600 livres perdues, voilà tout. » Et elle s'en allait. « Reste, reste !» dit vivement Iphax, dominé par le démon de la convoitise. « Voyons un peu. Mes camarades consumeront en présent, en festins et en orgies, la moitié de la somme. Aussi, j'ai réservé 200 livres de plus dans ce but. Dis-tu vrai, ma princesse, ma sorcière, mon démon charmant? Mais c'est beaucoup trop pour ces drôles-là. Nous leur donnerons seulement la moitié et ajouterons l'autre moitié pour les frais de notre entrée en ménage. Comme il te plaira, pourvu que la chose soit faite selon mes conditions. Alors c'est une affaire conclue. Il vivra 24 heures et ensuite nous ferons des noces magnifiques. » Pendant ce dialogue, où l'on négociait sa vie à l'amiable, Sébastien ne se doutait guère qu'il fût le sujet d'une conversation de ce genre. Comme Saint-Pierre entre ses deux gardes, il dormait paisiblement au pied de la muraille de la cour. Fatigué des travaux de la journée, il avait profité du calme de la soirée pour se coucher de bonne heure, et le dallage de marbre paraissait un lit assez doux pour le soldat. Après quelques heures de repos, il s'éveilla, rafraîchi par le sommeil. Voyant que tout était calme et silencieux autour de lui, il se leva sans bruit et, joignant les bras, il se mit à prier. La prière du martyr n'était pas une préparation à la mort. Une mort, un sacrifice tel que le sien, n'a pas besoin de préparation. Le soldat qui se déclare soudain chrétien courbe la tête et mêle son sang à celui du confesseur qu'il venait exécuter, l'ami d'un nom inconnu, qui, rencontrant un martyr allant à la mort, le salue et, pour ce crime, est lié avec lui et conduit au supplice, sont aussi bien préparés au martyr que le prisonnier qui a passé de longs mois en prière dans un cachot obscur. Leurs fautes sont effacées sans qu'ils aient besoin d'aller implorer leur pardon. Ils sentent en eux cet amour parfait qui bannit la crainte et une grâce divine incompatible avec l'état du péché remplit leur âme. Sébastien ne priait pas non plus pour obtenir la force et le courage, la crainte et la faiblesse lui étaient également inconnues. Son esprit n'avait jamais douté qu'après avoir contemplé la mort en face si souvent sur le champ de bataille pour un souverain terrestre, il pût l'accepter avec moins de joie pour le Seigneur du ciel, là où il lui plairait de la lui envoyer. Jusqu'au lever de l'aurore, la prière du martyr fut une hymne d'allégresse à la gloire du roi des rois, en union aux séraphins, dont les yeux jettent des rayons d'amour et dont les ailes frémissantes s'agitent sans cesse devant le trône du Très-Haut. Puis, quand les étoiles brillantes allumées au firmament vinrent frapper ses regards, il les salua comme des sentinelles vigilantes et leur demanda d'échanger avec lui le mot de passe du ciel. Le vent de la nuit s'engouffrait dans les arbres sans feuilles qui formaient la cour d'Adonis. Il désira que cette musique fantastique et sauvage se modulât elle-même et que les rudes arpèges qu'elle faisait entendre par la vibration des arbres formassent des hymnes plus doux, les seuls que la terre puisse murmurer dans cette nuit d'hiver. Bientôt il se réjouit à la pensée que le jour allait se lever, car le chant du coq avait frappé son oreille. Encore quelques instants et les branches s'entr'ouvriraient pour laisser passer les flèches allant droit à leur but. Ils s'offraient joyeusement à leurs dards acérés, qui, sifflant comme autant de serpents, viendraient boire son sang. Le martyr se présentait en oblation à la gloire de Dieu pour apaiser sa colère. Il s'offrait particulièrement pour l'Église persécutée et priait pour que sa mort pût adoucir et abréger les souffrances de ses frères. Alors ses pensées s'élevèrent de l'Église de la terre à l'Église du ciel. Il s'élança, prenant son essor comme l'aigle qui, du plus haut sommet de la montagne, vole vers le soleil. Les nuages avaient disparu, le voile d'azur du matin s'était déchiré en deux, comme celui du sanctuaire, et l'intrépide tribun contemplait ses profondeurs sans limite. Il voyait, au-delà de l'assemblée des saints et des légions angéliques, la gloire éternelle qu'Étienne avait contemplée quand son œil perçant arriva jusqu'au plus haut degré de la gloire. L'hymne de son âme devint silencieux. Les harmonies célestes lui arrivaient, elles étaient trop douces et d'un rythme trop parfait pour trouver leur expression dans la rudesse de la voix humaine. Elles venaient à lui, ces suaves harmonies, et ne lui demandaient pas de réponse. Elles apportaient le ciel dans son âme, que pouvait-il leur donner en retour? Il lui semblait qu'une fontaine pure et rafraîchissante, dont les eaux limpides apportaient des flots de lumière, jaillissant sur lui des pieds même de l'agneau, remplissait son cœur, qui recevait dans une extase immobile ce don inestimable. À travers ces flots étincelants qui glissaient vers lui, il apercevait la figure tantôt de l'un, tantôt de l'autre de ses heureux amis qu'il avait précédés au ciel. Il les voyait se jouant dans ces eaux limpides, buvant et se baignant à ces sources transparentes, dans lesquelles, tout à coup, leur corps lumineux venait à se dissoudre. La lumière céleste de cette vision brillait sur le visage de Sébastien, et lorsque l'aube du matin vint à l'éclairer, aurore vraiment divine, il était debout, les bras en croix, du côté de l'Orient. Lorsque Iphax ouvrit la porte et l'aperçut ainsi environné d'une gloire surnaturelle, le barbare fut au moment de se prosterner au milieu de la cour pour adorer son prisonnier. Sébastien sortit à ce moment de son extase. Le son des sesterces résonna alors à l'oreille vénale d'Iphax. Il ne pensa plus qu'à les gagner habilement. Il choisit dans sa troupe de 500 archers, 5 habiles tireurs, capables de traverser une flèche lancée en l'air à l'aide d'une flèche plus légère, les appela dans sa chambre, leur dit quelle récompense les attendait, en ayant soin de cacher l'importance de sa part, et convint avec eux de la manière dont l'exécution devait avoir lieu. Quant au corps, les chrétiens avaient déjà offert secrètement une forte somme pour qu'il leur fût remis, et 2 esclaves attendaient en dehors pour le recevoir. Le chef pouvait donc compter sur la discrétion absolue de ses hommes. On conduisit Sébastien dans la cour voisine du palais qui séparait les quartiers des archers africains de son propre appartement. Cette cour était plantée d'arbres et consacrée à Adonis. L'officier marchait joyeusement au milieu de ses bourreaux, suivi de la troupe entière des archers numides, admis seulement comme spectateur à un curieux exercice de tir. On dépouilla Sébastien de ses vêtements et on l'attacha à un arbre, pendant que les 5 archers choisis se plaçaient en face, calmes et attentifs. C'était en vérité un genre de supplice affreux. Mourir seul, sans un ami, sans un regard sympathique autour de soi, pas un chrétien pour porter aux fidèles son dernier adieu, pour recueillir ses dernières paroles, pas un témoin de sa fin héroïque. Il y a quelque chose de consolant à être debout au milieu de la foule de l'amphithéâtre, devant 100 000 témoins de la constance du chrétien, voyant les regards encourageants d'un grand nombre, recueillant les bénédictions que murmurent quelques personnes bien aimées. Il y a là un secours qui soutient, qui prête une aide à la faiblesse des émotions humaines et qui vient s'unir au puissant pouvoir de la grâce. Les cris même de la multitude insultante stimulent le courage humain, comme les cris du chasseur surexcitent le cerf aux abois. Mais cette scène de mort silencieuse au crépuscule du jour, dans la cour d'une maison, se sentir lié avec indifférence, comme une botte de paille ou un mannequin, pour servir de but aux flèches de barbares, selon les ordres d'un tyran, seul, au milieu d'une horde de sauvages au teint noir, dont le langage est aussi étrange qu'inintelligible, et qui, sans doute, raillaient brutalement et plaisantaient entre eux comme des hommes le font devant un jeu quelconque ou à la poursuite d'un gibier. Toutes ces circonstances rendaient à ce drame l'apparence d'un crime commis par des scélérats dans une forêt obscure et ne ressemblaient pas à la glorieuse confession du Christ. On aurait cru plutôt à un assassinat qu'à un martyr. Mais l'esprit de Sébastien n'était plus de la terre. Les anges le contemplaient au sommet de la muraille et la face du seul témoin qu'il voulait avoir des souffrances endurées en son nom resplendissait sur lui plus brillamment que le soleil levant dont les rayons, en l'inondant de lumière, rendaient le but plus clair aux flèches des archers maures. Le premier maure tendit la corde de son arc à la hauteur de son oreille et la flèche sifflante alla s'enfoncer en tremblant dans la chair de Sébastien. Chaque archer vint à son tour et des cris d'applaudissement accompagnaient chaque coup d'adresse, approchant habilement les parties vitales sans les atteindre, suivant l'ordre de l'empereur. Le jeu allait son cours, au milieu des rires, des clameurs, des plaisanteries de l'assistance, qui n'eut pas un regard de pitié pour ce corps frémissant, tout couvert de sang. Tous ne songeaient qu'au divertissement, excepté le martyr, pour qui tout était douleur. Chaque trait a serré, la fatigue, l'épuisement, la perte du sang, les liens noueux. Mais son intrépidité croissait avec sa souffrance, sa foi s'affermissait encore, sa patience augmentait, et son amour pour notre Seigneur devenait plus ardent à chaque douleur nouvelle qu'il endurait en son nom. Sa prière était plus vive, son regard s'illuminait en contemplant le ciel, son oreille vigilante écoutait, guettant le bruit des portes du ciel qui sans doute allaient s'ouvrir. C'était en vérité une mort désespérée. Cependant, il y avait quelque chose de plus terrible encore. Après les souffrances, la mort ne vint pas. Les portes d'or restèrent fermées, son cœur avait souffert et supporté le martyre, mais Sébastien, réservé encore à une gloire plus grande sur la terre, tomba sans connaissance, soutenu sur les genoux des anges. Ses bourreaux virent qu'ils avaient rempli la tâche demandée. Ils coupèrent les cordes qui le liaient, et Sébastien tomba évanoui et paraissant mort sur le tapis de sang dont il avait recouvert les dalles de la cour. Était-il étendu là comme un noble guerrier, semblable à la statue de marbre qui repose sous l'autel de l'église qui lui est dédiée? Nous ne pouvons penser qu'il fût plus beau, et nous aimons cette église, ainsi que l'ancienne chapelle qui s'élève au milieu du Palatin en ruine, pour marquer l'endroit où tomba l'intrépide guerrier.